19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver ce soir, chers amis auditeurs. C'est parti, vous le savez, durant une heure quotidiennement jusqu'à 20h-20h pour comment analyser et décrypter l'actualité. Alors au menu ce soir, chers amis auditeurs, puisque la famille des informés, elle grandit, oui. Alors on va tout d'abord démarrer par une interview avec le directeur général, celui qui a fondé l'association Graines de Star, c'est Red Hadidi. Red Hadidi, que vous connaissez, qui va venir nous parler de l'affaire Théo. Vous savez, l'affaire Théo qu'on a commenté il y a quelques jours ici même sur ce plateau, avec les débatteurs et notamment Alice Oumaret. Nous reviendrons aussi, vous savez, sur les sujets qui ont commenté, secoué cette journée concernant l'actualité. Il minimise Macron, hein, on parle de l'oisiveté, et bien justement, nous en parlerons avec Red Hadidi, certainement, mais l'oisiveté des émeutiers, des policiers. Vous savez que les policiers ont été outrés, hein, et ça gueule pas mal, donc il reproche à Macron d'avoir tenu, d'avoir fait ce type de déclaration. Nous parlerons de l'infertilité, là aussi, autre polémique, c'est les femmes elles disent, non mais attendez, l'infertilité des l'utérus, vous faites pas ce que vous voulez avec notre utérus, quoi, ça, monsieur le président. Bon, enfin bref, les utérus, ils disent clairement, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Eh ben, clochette. C'est bien, mesdames. Polémique Oudéa, que de la polémique aujourd'hui. Hein. Polémique Oudéa Castéra, eh bien, le collège Stanislas connaît quelques difficultés. Hein. La mairie de Paris veut suspendre ses financements, la région se pose des questions, et puis les sénateurs saisissent la justice. Autant dire que ça mérite une clochette. 19h50, c'est Pascal Boniface et son billet d'humeur dans le Quoi de Neuf. Et puis vous, au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, vous nous appelez, vous passez à l'antenne, vous êtes prioritaire, vous intervenez quand vous voulez. Je vous le dis, vous êtes prioritaire. Vous appelez, vous êtes tout de suite pris. Hein. Il n'y a pas de, comme les autres stations, vous attendez, vous patientez. Vous appelez, vous passez, direct. Voilà, c'est comme ça ici. C'est priorité aux auditeurs. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Red Hadidi. Bonjour monsieur Red Hadidi, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien et vous ?
Très bien, directeur général de l'association Graines de Star. Il y en a un qui veut vous saluer notamment. On va lui ouvrir le micro, je crois que vous allez reconnaître sa voix, Red Hadidi.
Salut Reda, c'est Bruno Pomard.
Oui, salut Bruno, tu vas bien ?
Oui, on partage les mêmes avis sur tout un tas de sujets avec Reda qui va beaucoup dans les écoles faire partager ses relations police-population et c'est formidable le travail qu'il fait.
Eh ben justement, j'aimerais lui poser, puisqu'il Reda. Fait, vous avez raison, il fait, tout le monde vous salue, il y a aussi Gamal Abina. Oui. Dites-moi Reda Didi, oui. Vous savez, il y a justement une déclaration qui passe pas du tout. C'est celle d'Emmanuel Macron lorsqu'il parle de l'oisiveté des émeutiers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher Reda Hadidi ?
C'est pas... Nous, on en travaille sur la question de la relation police-population en mettant en œuvre à Graines de France et pas Graines de Star.
Excusez-moi, c'est vrai, Graines
de Star. Ah oui, t'as dit Graines de Star.
J'ai dit Graines de Star. Oui, vous savez, Reda Hadidi, j'ai pas fait attention.
Ça fait plaisir.
Vous avez raison.
Mais bientôt.
Mais non, attendez, vous êtes en quelque sorte, vous êtes tous des Graines de Star. J'ai dit Graines de Star, mais c'est mon subconscient. Il y avait pas un programme qui s'appelait Graines de Star ?
Oui.
Je crois que ça doit être ça. Ça doit être ça. Graines de France, vous avez raison de me corriger, Reda Hadidi. Je vous écoute.
Je pense que sur l'analyse des émeutiers, l'oisiveté en faisait partie. Mais c'est pas uniquement ça. Je pense qu'en effet, à un moment où il y a eu un décrochage et où on s'est retrouvé à la fin de l'année avec des jeunes qui n'étaient plus scolarisés ou autres, à participer à que les émeutes soient un peu plus intenses. Mais à mon avis, c'est qu'une petite partie de de l'explication.
On va parler, vous savez quoi, de cette affaire qui a secoué notamment les quartiers populaires, c'est l'affaire Théo. Red Hadidi, c'est la raison pour laquelle je voulais vous inviter ce soir pour en parler. Le procès, vous allez nous dire où on en est précisément dans le cadre de ce procès, de trois policiers dans l'affaire Théo. Et vous, Graines de France, justement, vous avez fait des propositions pour l'amélioration des relations police-population. Vous allez nous en parler dans quelques secondes, mais dans ce procès, je sais qu'il y a un policier qui a été condamné, hein, Red Hadidi.
Oui, alors moi j'ai pas...
Tous ont été condamnés.
Tous ont été condamnés,
mais un en particulier, non.
C'est ce que j'ai vu. Nous, on a voulu s'accrocher, j'allais dire, au procès pour expliquer que vous aviez...
Trois ans de prison, Reda Hadidi. Trois ans de prison avec sursis avec requis sursis. Contre les trois policiers, contre les policiers.
Et il y en a deux avec six mois et quelque chose comme ça.
C'est ça.
Voilà, Bruno, on s'est bien...
Trois mois, allant de trois mois à trois ans.
Tout à fait.
Ouais. Voilà. Mais l'idée pour nous, c'est bien, avec ce que fait Bruno aussi de son côté, de trouver des espaces de dialogue et des espaces où l'on puisse échanger avec des policiers, des responsables associatifs, des élus, des sociologues, et essayer de trouver des solutions à cette impasse qu'on peut vivre depuis maintenant plus de 30 ans. L'affaire Théo en est un exemple. Nous, on ne voulait pas s'arrêter sur l'affaire Théo qui est devenue un symbole, mais on a voulu, c'est la deuxième édition qu'on fait, créer des séminaires fermés, donc sur le mode Chatham House, où on puisse justement permettre aux uns et aux autres de donner son point de vue et essayer de dégager des solutions intelligentes entre des gens qui arrivent à s'écouter et avoir un diagnostic commun, c'est-à-dire un dialogue apaisé entre la population et la police pour pouvoir assurer à chacun de vivre en toute sécurité.
Ces propositions concernant l'amélioration des relations police-population, Reda, Didi, ce séminaire fermé, vous le disiez à l'instant, dans ces propositions aujourd'hui, est-ce que vous avez retravaillé votre schéma, votre méthodologie lorsqu'on voit évidemment l'affaire Théo et lorsqu'on voit aujourd'hui qu'il y a cette complexité et ce rapport qui se complique davantage, de plus en plus d'ailleurs, lorsqu'on pense aux jeunes des quartiers populaires, mais notamment à la police, à notre police?
Oui, bah alors il faut pas,
c'est-à-dire que. Est-ce qu'il faut s'adapter en gros aujourd'hui?
Si vous interrogez les Français, 77% des Français ont confiance en leur police. Voilà. Après, il reste un gros segment, notamment dans les quartiers populaires, mais qui vient se mélanger à ça d'autres populations. Je pense notamment aux gilets jaunes ou aux personnes proches de ces mouvances-là, qui ont une forme de défiance et de méfiance vis-à-vis de la police. Et c'est à partir de là qu'il faut qu'on arrive à recréer du lien de confiance dans ces espaces. Parce que vous le savez, comme moi, les habitants des quartiers populaires sont en demande de plus de policiers, mais d'une police avec laquelle ils peuvent rentrer en dialogue, rentrer en contact un peu plus facilement que ça n'a pu l'être ces dernières années.
Et alors, donc pour oui, dites-moi. Non, dites-moi, allez-y, je vous ai interrompu.
Non, mais après on a nous comme envoyé dans le rapport que vous avez pu recevoir, on a quelques propositions qui de notre point de vue pourraient améliorer cette situation.
Alors, parlons-en justement aujourd'hui. Parmi ces propositions, est-ce qu'il y en a une qui sort un peu du lot quand on voit là, quand je vous dis, je repose la question, la complexité de ce rapport police et jeunes?
Oui, de toute façon, d'abord, il faut qu'on ait une vraie vision politique et une volonté de vouloir avoir un rapprochement police-population. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est dans mes différents contacts et mes différents échanges, c'est que finalement, le patron de la police est plutôt pour avoir une relation police-population un peu plus importante qu'elle l'est aujourd'hui, que la population est aussi dans ce sens-là. Derrière, ce sont les moyens qui sont dégagés pour pouvoir y arriver de façon efficace qu'il faut pouvoir discuter. Donc, dans un premier temps, il faut soutenir et renforcer ce lien police-population. Dans un second temps, il faut peut-être re-questionner les fonctionnements systémiques. Je pense notamment à développer des dispositifs de vision sur du long terme, sur la question de la relation police-population, et pas uniquement des à-coups, intégrer la capacité à créer du lien social dans les critères d'évaluation et de promotion des policiers. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de policiers ou dans la gendarmerie, parfois, quittent ces corps, et parfois pour aller vers de la police municipale, parce qu'ils veulent pouvoir avoir du lien avec la population, et qu'on doit recréer des outils ou recréer des moyens pour améliorer cette relation. Et puis enfin, il faut retravailler pour reconnaître la diversité des pratiques et des approches, et notamment résister aux lectures idéologiques, aux sensationnalistes qui sont à chaque fois dus à un fait divers ponctuel.
Reda Didi, je vais donner la parole à Bruno Pomar qui aussi travaille justement sur cette relation un peu comme vous, rapport police-jeune. Bruno Pomar.
Alors je partage totalement ce que dit Reda, évidemment. On a changé totalement de paradigme. Il faut savoir dans la police, moi je suis rentré en 81 dans la police. Et ce travail de relation, on l'avait au tout début. Cette police de proximité qui existait, que Sarkozy a complètement mis de côté. Je pense qu'il a fait une erreur politique, c'est certain, parce qu'il fait de la politique aussi. Je pense qu'il aurait fallu la réadapter pour éviter de voir ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que plus aucune police est présente, hormis, on pourrait dire, les polices municipales qui sont encore, je dirais, celles qui font de la police de proximité, mais ce qui est un peu, oui. Non, mais ils en font. On peut pas, c'est les seuls qui sont vraiment présents. Mais là où on a changé le paradigme, et Reda le disait à l'instant, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, a fait beaucoup d'efforts, et c'était pas dans la mentalité des policiers. Moi, je me bats. Ça fait 33 ans que j'ai mon association, j'étais policier au raid à ce moment-là. Dans la police, on était un peu, quand on me regardait un peu de travers, même. On dirait, attends, le flic du raid, là, il nous fait de la prévention, il nous gonfle. On est pas, le flic, il est pas là pour ça. Et ça
évolué énormément grâce, très sincèrement, hein, à la volonté du DGPN et même de Darmanin. Ça, on peut pas, on peut y reprocher peut-être d'autres choses, pourquoi pas. Mais sur ce sujet-là, je trouve qu'on a fait des efforts. Il y a encore à faire, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et pour casser, je dirais, ces stéréotypes, eh bien, ce que fait Reda, ce que fait d'autres à Bellboy, ce que nous faisons nous avec Reda Aventure, on était encore dans un quartier nord de Marseille ce week-end. Voilà. C'est un travail permanent de proximité avec les associations de proximité, parce qu'il y a des gens formidables. Nous, on parle de Reda Aventure parce qu'on est hyper connu, mais j'ai plein de petites associations avec qui je travaille, mais qui font un travail formidable. Et c'est ceux-là même qui vont renouer ce lien, parce que, encore une fois, l'acteur associatif, les acteurs associatifs que nous sommes, on est des amortisseurs. J'aime bien ce mot, des mots MAUX de la société. Si on n'est pas c'est dans vrai, le quartier, au milieu de ces quartiers, mais on peut mettre 300 flics Reda, de plus partout, hein. Reda, on réglera pas le problème.
Reda Didi, justement, il expliquait les efforts. Ouais. Selon vous, quels sont les autres efforts qu'il faut faire aujourd'hui? Ce sera ma dernière question, Reda Didi.
Bah, pour un natif de mots, moi, répondre au mot, ça me va bien. J'ai pas de sujet avec ça, mais on pourrait retravailler aussi pour favoriser les bonnes pratiques entre professionnels et encourager l'essaimage. Ouais. Bruno vient de le dire, il y a plein de bonnes pratiques à travers le territoire qu'on n'arrive pas à faire connaître, même au sein de commissariats qui sont très allants sur la question de la relation police-population. Il faut s'appuyer aussi sur les actions de rapprochement police-population pour augmenter le vivier de recrutement. Je veux dire, aujourd'hui, on a dans la police un problème de recrutement parce que ce métier attire moins. Et plus on aura des bons qui iront vers ces métiers-là, mieux ce sera. Donc, il faut qu'on arrive à attirer. Et puis aussi, il faut permettre aux acteurs d'intervenir sur le terrain de la formation. C'est-à-dire que je pense que des organisations comme Graines de France ou Raid Aventure doivent pouvoir aussi un peu venir accompagner la formation des policiers pour leur expliquer ce qu'attendent les habitants, et en particulier les habitants de quartier populaire, sur une relation police-population.
Merci infiniment, Reda Didi, d'avoir été avec nous. Ne lâchez rien, franchement, bravo.
Salut,
pour ce que vous faites.
Fait,
non, mais bravo pour ce que vous faites, pour ce travail exceptionnel et remarquable. On en a besoin, vous avez raison. Directeur général de l'association Graines de France, hein,
merci,
mais pas Graines de Star. Et bientôt Graines de Star aussi, notamment. Merci,
salut,
Reda Didi.
Salut.
Tout de suite, le face-à-face, c'est pas...
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Bruno Pommard, ancien membre du RAID, RAID Aventure, La Fondation, producteur télé, et maire.
Cumulard, un vrai cumulard.
Ah ouais, un vrai cumulard, il n'arrête pas. Hein. Ça va, Bruno Pommard?
Ouais, super, très heureux d'être là, et puis bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM.
Oui.
J'adore être ici.
Et bonne année aussi.
Et bonne année, oui.
Aussi. Qu'est-ce qui fait que vous adorez d'être ici? Pourquoi?
Bah, c'est l'ambiance, en fait, les médias. D'abord parce que j'aime bien te voir, et puis les invités que tu as, avec qui je suis pas toujours d'accord, mais ça fait partie du jeu, du débat, hein. Mais j'aime bien, voilà, c'est tout simplement l'ambiance.
C'est familial.
On se prend pas au sérieux et on débat.
C'est familial. Autre élu aussi, il est pas encore maire, mais bientôt, il est député suppléant, et c'est annulé aussi. Pourquoi ça vous fait sourire, Farid Aïd?
Ah, non, j'ai rien dit.
Comment ça, vous avez rien dit, vous voyez pas maire dans les prochaines années? Moi, j'ai cru comprendre naïvement que vous vouliez être maire, moi.
Moi, je me bats.
Ouais.
Bah, chaque jour.
Suppléant député, tu vois.
Chaque jour.
Député, c'est
de quel député?
Stéphane Peu.
Ah, le maire de.
Non, le député,
député
de Saint-Denis.
Oui, oui.
Pierre Fitte, Vitanos.
D'accord. Voilà. Hey, Pierre Fitte, hein.
Ouais. C'est à gauche, tout ça.
On essaye de faire avec et pour les habitants, mais certains font de la politique politicienne.
Et comme
ils font de la politique politicienne,
ça marche pas.
Comme ils pensent qu'ils veulent rester toujours au pouvoir, et ben ils sont prêts à faire une fusion, comme tu l'as entendu, sur Pierrefitte Villetaneuse, pour faire une grande ville qui sera la deuxième ville après
Farid
Paris.
Aïd, bienvenue dans le Nouveau Monde. Katia Burrier, autre élu, vous avez vu? Que des élus ce soir.
Élu Saint-Maurice.
Oui, Saint-Maurice. Pourquoi j'ai dit quoi?
Non.
Ah, j'ai rien dit.
Saint-Maurice,
ouais. Saint-Maurice, et vous représentez Renaissance, le parti de la majorité.
Et bah, je dis bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM, et une très bonne année à tous.
Exactement, bonne année aussi. Gamal Abina, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Comme d'habitude.
Ouais, le porte-parole du mouvement MDC. Bientôt, non?
Non, jamais.
Jamais.
Pas en France, du moins.
Allez, messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, tout de suite, de oisiveté. Et je sais que ça va faire réagir beaucoup. Notamment, celles et ceux qui nous écoutent, 01-53-48-3000, le standard est ouvert. Solal vous accueille les bras ouverts pour parler de ce... Certains considèrent qu'il a minimisé, Emmanuel Macron, le fait de dire que c'est l'oisiveté des jeunes qui a... Voilà, qui se sont lâchés comme ça dans ces émeutes. Moi, je crois pas, mais bon, on va en parler justement avec vous, les auditeurs, mais avec les débatteurs. C'est parti.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, messieurs, parlons-en, et madame, pardon, Katia Burrier, Gamal Abina, Bruno Pommard et enfin Farid Aïd. Je veux qu'on parle de... Tiens, je vous donne la parole, Katia Burrier. Il minimise pour Emmanuel Macron cette histoire de l'oisiveté qui a motivé les émeutiers l'été dernier. Alors, beaucoup ont été frappés, voire choqués.
Par le terme.
C'est le Katia terme, Burrier. En fait. Vous, c'est, la c'est macroniste.
C'est le mot qui a été choisi, qui en effet peut choquer, parce que quand on voit les émeutes qu'il y a eu, on peut se dire l'oisiveté, on peut se dire, les policiers qui l'ont vécu se disent mais c'est pas possible. Et en fait derrière, je pense que c'est en effet qu'il y a une partie de jeunes qui avaient arrêté l'école, qui se baladaient dans la rue.
Ça c'est les décrochages scolaires.
Oui, non, pas nécessairement, c'est les vacances aussi.
C'est les vacances. Parce qu'ils avaient arrêté avec le BEPC, le baccalauréat, donc ils se retrouvaient à être... Oui, à rester dans la rue, parce que beaucoup, peut-être aussi, ont des parents, des familles monoparentales, donc les parents ne peuvent pas toujours non plus s'occuper des enfants.
C'est un vrai sujet.
Oui, c'est un vrai sujet. Donc, ces enfants-là, ils traînent dans la rue, sont emportés avec les plus grands. Et puis voilà ce que ça donne. On fait des bêtises, on fait n'importe quoi, on suit les grands.
Est-ce que c'est vraiment l'oisiveté des gamins, des émeutiers ?
D'une certaine partie, pas tous.
Mais c'est réduire. Moi, j'ai beaucoup entendu que c'était la colère, vraiment. Non, j'ai entendu que c'était vraiment la colère des émeutiers, c'était vraiment la colère du meurtre de la Fernelle.
Ils ont fait un test là-dessus.
C'est
un petit pourcentage.
Tiens, allez, Bruno Pommard, parlons-en. Et après, je vais entendre l'élu de Pierre Fitz.
A fait une étude là-dessus.
Oui, la Fernelle a eu bon dos, comme on dit. Mais le reste, non. Et moi, les services de police ont fait quand même des bilans, parce que nous, on fait tous des bilans sur les...
Ça a énervé la police, là, tiens, justement, vos collègues.
Mais ce qui est normal.
Ça les a énervés.
Au-delà de l'enquête, maintenant, ouais. Elle est en cours et laissons faire la justice encore une fois.
Les policiers, ils ont réagi.
La discussion
sur les propos d'Emmanuel Macron.
J'entends bien. Non, il y a quand même, malheureusement, dans ces quartiers, une minorité de mecs. Et il faut toujours le préciser, moi, parce que ces quartiers, général, Baba, j'y suis, moi, souvent. J'étais encore dans les quartiers nord de Marseille ce week-end. Il y a une minorité de mecs. Qui dirige le deal, qui dirige tout ce qu'on peut imaginer, tout le trafic. Une vraie minorité. Il y a des milliers de gamins qui sont dans ces quartiers. Pour certains, évidemment, ils sont là à glander, à attendre que le train passe. Et à côté de ça, il y a des leaders, il y a des mecs qui sont là pour foutre le bordel. Et effectivement, l'affaire Nahel a servi d'alibi, je dirais, pour pouvoir déclencher ce qui s'est passé. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ont fait les autres ? Et on l'a vu. C'est des voyous qui ont pété des magasins, c'est ce qu'on a vu, hein. Et ça, c'est pas une question d'intégration ou de pas d'intégration. C'est les voyous qui pètent des magasins de gens qui travaillent tout au long de l'année. C'est exactement ça, voilà, le sujet. Et à côté de ça, il y a eu, pour une fois, une réaction de l'État et du gouvernement, et en particulier du ministre du Garde des Sceaux, où il y a eu des sanctions très dures qui ont été... 60% des gamins ont pris de la prison ferme. Mmh. C'est pareil, on va dire, est-ce que ça va servir à quelque chose ? À ce moment-là, on peut juste leur faire un rappel à l'ordre et puis dire, allez, tout va bien, ne recommencez pas à casser le magasin après. Non, sanctions, il faut montrer l'exemple. Alors, et ensuite, prendre en charge, évidemment, un travail, mais là, qui est considérable. Moi, je le vois tous les week-ends que je vais sur les quartiers. Dans les familles, il faut aider les familles à avancer. Et ça, seul, encore une fois, les associations de quartier peuvent le faire. C'est pas les policiers, c'est pas les gendarmes, c'est pas, même pas les maires, les élus.
Mais qu'est-ce que vous répondez à vos collègues quand ils disent qu'ils sont outrés? Ils ont employé les deux termes. Outrés, écœurés par les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il parle de oisiveté des élus.
Oui, mais parce qu'il a voulu minimiser. Ils ont raison en disant, les jeunes, ils ont décollé un peu, c'est pas grave, ils ont tout pété.
C'est de la racaille, donc. Franchement, il a déconné.
Il aurait dû éviter ce mot.
Mais encore une fois. Qui a déconné? Le chef de l'État?
Le chef d'État. Il faut pas sortir des mots comme ça, il faut être vigilant. Au même titre que s'il avait dit racaille. Évidemment, de l'autre côté, on aurait dit, mais les jeunes des quartiers, c'est pas des racailles. Bon, mais voilà. Le problème, c'est de trouver les mots justes. Et quand on est président de la République, il faut trouver les mots justes pour apaiser.
Monsieur l'élu, justement, Farid Aïd, alors.
Ouais, moi, ce que je dis, c'est que par rapport à ce qu'il a dit, le président de la République, c'est un point de vue qu'il a, que moi, je partage pas tellement, mais moi, je suis pas d'accord avec cette élite politique qui n'ont jamais étaient dans les quartiers, oui. qui connaissent quelqu'un par quelqu'un, etc., quand ils s'expriment, mais ils n'ont jamais rien vu. Il y a eu une vraie colère.
Moi, je pense que...
Bien sûr, mais quand on est dans... J'y étais encore. Mais j'y étais encore. Il était à Clichy-sous-Bois ce matin. Mais alors, mais qu'il voit. On prend 10 jeunes qu'on a triés sur le volet, on prend quelques responsables associatifs, on prend quelques élus, et voilà. Ah, t'as vu ? On fait quelques photos, et il s'en va. C'est pas ça la question, Adil. C'est qu'il y a une vraie colère. Il y a une vraie colère au-delà de la mort tragique de Nahel, il y a une vraie colère dans les quartiers, d'injustice, d'inégalité. Tout ce qu'on dit chaque jour, et on l'a bien vu, on verra tout à l'heure avec la ministre de l'Éducation nationale, les injustices qu'il y a en Seine-Saint-Denis, sur l'école.
Mais qu'est-ce que vous pensez du terme de l'oisiveté?
Je dis pas que ça justifie les casses. Je dis que encore ce matin, Adil, Un jeune de 14 ans est décédé à la basilique de Saint-Denis. Là, là, avant-hier, il y a eu une rixe, un corps avec un jeune qui s'est fait tabasser par quatre jeunes, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? C'est que la sécurité?
Non.
Eh ben alors, c'est quoi? C'est de la prévention, c'est de l'éducation, c'est donner des moyens et des réels moyens pour que les gens le puissent terme. Vivre. C'est ça la question. Et terme. Alors les termes de noisiveté, je le laisse à Emmanuel Macron. Il est pour moi hors sol, mais depuis longtemps, depuis 2017.
Ah oui, carrément hors sol.
C'est en colère, hein? Alors,
Oui, il est en colère.
Je suis en colère parce que les gens sont en colère. Parce que les gens, ils ont ils veulent manger, les gens. Ils veulent vivre. Ils veulent qu'on arrête de les montrer du doigt. Et qu'est-ce qu'on fait? Tous ceux-là qui sont là, on a fait que ça depuis des semaines de parler de remaniement de quoi? De traite avec Rachida Dati qui disait il y a quelques semaines oui c'est des traites à gauche et des traites à droite et elle devient ministre de la culture . C'est quoi le projet politique de Macron? C'est quoi pour les quartiers populaires? C'est quoi pour les gens qui travaillent matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'il propose à ces gens-là? C'est quoi qu'il propose? C'est quoi? C'est encore d'augmenter l'électricité de 10% au mois de février?
Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas répondu sur l'électricité, sur la baisse de l'électricité. Kamal Abina.
Il y a plusieurs éléments. D'abord, j'ai eu l'occasion de parler sur les médias internationaux de la question de ce qui s'est passé, ces fameuses émeutes ou révoltes, on choisit le terme. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de se dire, alors Macron dit l'oisiveté, c'est un élément d'explication pour dire, en vérité, mais ce n'est pas dit, et malheureusement, c'est là ce qu'on peut lui reprocher, que des gens qui n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont un décrochage scolaire, parce qu'ils sont en galère dans la rue, parce qu'ils n'ont rien à faire de leur journée, effectivement, finissent par répondre à ces sirènes. Mais il y a 20 ans, il y avait le même phénomène sous Sarkozy, où une colère, et cette colère n'est pas feinte, d'une police qui se comporte mal, pas la police, hein, d'une police, je précise toujours mon tir, la police de nuit, il y a des comportements déviants, pas tous les policiers.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Il faut bien le préciser.
Oui, il faut bien, toujours. Il y a toujours des voyous. Moi, j'ai eu affaire à ça. C'est pour ça que je vous en parle à titre personnel. Je suis en 93, j'y travaille. Le côté méprisant, le tutoiement, les palpations, la mise à la tentative d'humiliation. C'est des réalités que tout le monde connaît dans les quartiers, surtout le soir. La problématique qui se pose, c'est quoi? C'est que dans les quartiers où il y a 40% de chômage, où il y a effectivement cette colère comme ça qui n'est pas feinte, c'est pas une fausse colère. On peut pas dire aujourd'hui que 600 villes sur tout le territoire français se sont révoltées en même temps et qu'il y aurait 600, et il y aurait autant de villes que de dingues. Ça n'est pas possible. Ouais. Donc il y a bien un contexte socio-économique qui existe, un contexte de gestion mal faite des quartiers, et surtout quand il y a de la tension sociale et qu'on y ajoute en plus ce qui est perçu comme des provocations, une présence policière qui peut être extrêmement invasive parfois. D'autres, je connais des policiers qui travaillent formidablement, il y a pas problème. Mais malheureusement, la nuit, c'est là où on lâche les bêtes. Je parle de la BAC, je parle de ces polices spéciales de criminalité. La BAC, c'est criminalité.
Oui. Dont on a besoin.
J'entends bien, mais qui s'adresse à des jeunes qui peuvent être non pas criminels, mais qui peuvent commettre des délits. Donc confondre délit et crime, c'est problématique. Eh bien, ça crée quoi? Des tensions. Et moi, j'allais dire simplement, quand M. Macron dit ça, il oublie une partie du problème. Il fait croire qu'il n'y a pas. Non, il oublie volontairement en disant l'oisiveté a conduit à des émeutes. Non. L'oisiveté est un des éléments qui peut conduire aux émeutes. Oui, j'entends bien. L'autre aspect, c'est une rupture entre la police et le citoyen qui existe malheureusement depuis Sarkozy, et on l'a observé. Le troisième aspect, c'est le chômage de masse, les décrochages et les banlieues, tout comme les provinces qui sont abandonnées. Et le dernier aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est effectivement que les policiers, il ne faut pas l'oublier, hein, qui s'en sont certainement, pour certains, donné à cœur joie, et d'autres qui ont été dans une situation de stress extrême, sont partis des gilets jaunes. Et je vais répondre à la question des casses. Je veux bien entendre des casses quand on va chez Nike, ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Sauf qu'il y a des magasins qui ont été cassés qui étaient alimentaires. Là, c'est inquiétant. Les gens ont été volés de la nourriture. Il faut se poser la question. Deuxième aspect, quand les gilets jaunes.
Ça rejoint ce que disait.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs éléments. C'est pas un bloc.
Il a juste oublié un élément.
Juste un élément.
La France insoumise, les députés qui étaient sur le terrain qui ont foutu le bordel. Tous ces militants,
les jeunes n'écoutent pas les politiques. C'est catégorique. Les politiques peuvent profiter, mais les jeunes ne les écoutent pas. Ils sont dans un logiciel qui est différent. Moi, j'ai parlé des jeunes qui ont lancé des cocktails Molotov aux flics. Hein. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on en a marre. C'est ça la réponse. On en a marre, on n'a rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on fait des bêtises. Puis simplement, pour finir avec l'histoire de la destruction, quand il y a des mouvements de masse comme ça, violents, on l'a vu en Angleterre, on le voit partout, forcément, on l'a vu avec les gilets jaunes, casse des commerces, parce qu'il y a des profiteurs, c'est vrai. Mais sur la base sociale étant difficile en ce moment.
Certains vous diront, on s'en prend au capitalisme.
Mais oui.
Pour certains,
ils s'en prennent même certains en voiture de leurs voisins.
Non, pour d'autres, ils vont juste se servir, c'est vrai. Mais il ne faut pas perdre de vue que la masse considérable des 600 villes qui ont manifesté violemment ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient voler un magasin Nike à République. C'est pas vrai.
On a profité.
Il y en a qui profitent, ça.
Tiens, je vais demander à Fatima de Paris ce qu'elle en pense. Bonsoir, Fatima.
Bonsoir à Adil, bonsoir à vos invités.
Bonsoir madame.
Bienvenue,
bonsoir,
madame. On vous écoute, ma chère Fatima.
Merci. Moi, je voudrais juste poser une question. Est-ce que les... Parce que moi, je connais énormément de gens de banlieue dont les enfants n'ont jamais eu ou participé à ce genre de problème.
Bien sûr.
Saint-Denis, que ça soit sur Rennes, ça
tout
soit...
à fait.
J'en connais énormément.
Oui,
c'est pas énorme. Ceci d'une part. D'autre part, il y a monsieur qui dit que on en a marre. Marre de quoi?
Marre
des logements?
Je vois qui c'est.
Marre de toutes ces allocations?
Bah, adressez-vous à lui, là.
C'est à moi.
Alors, gamin, allez-vous écouter. Il va vous répondre. Allez-y, je vous laisse finir.
Voilà. Donc, il n'y a pas une ségrégation entre la banlieue et Paris. C'est-à-dire que certains leur payent tant et d'autres leur payent tant. Il y a des familles qui sont gavées d'allocations, mais cet argent ne va pas à leurs enfants. Moi, il m'est arrivé de dire à une famille, pourquoi tu laisses tes enfants, c'est pas des enfants à problème, hein, les surveiller de près. Pourquoi tu leur payes pas le basket? Pourquoi tu leur payes pas? Elle a les moyens de leur payer. Non, elle paye pas. Non, ce n'est pas ça. Vous savez d'où vient cette violence dans la banlieue? Elle vient de ces gens qui leur disent « La France ne vous aime pas. » Pourquoi il n'y a pas des meufs en Asie?
Elle a raison.
Elle dit n'importe quoi.
Attendez, laissez-la finir. Bruno Pomar dit qu'elle a raison. On va vous entendre.
Il y a des gens au Maghreb qui habitent dans des baraques. Ils sont là à attendre gentiment qu'on leur offre un appartement, qu'on leur ceci, et ils attendent leur tour. Alors que là, ils sont dans des HLM, des appartements qui coûtent au Maghreb des milliards. Ils ont des aides comme pas possible. Les associations ne prennent l'argent, ils ne font pas le travail, c'est ça. Mais c'est le fait de les victimiser. Parce que moi aussi, je viens du Maghreb, je suis algérienne, et je me suis débrouillée, j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, et croyez-moi, il a 45 ans, et
puis il vous répond. Alors, Fatima, merci pour votre intervention, comme toujours d'ailleurs. 0153 48, merci.
Oui.
Non mais on a bien compris, Fatima. Merci infiniment d'être intervenu, Fatima. 0153 48 3000, vous nous appelez, évidemment, vous réagissez. Gamal, vous lui répondez brièvement, s'il vous plaît.
Très rapidement, en bon français, victimiser n'existe pas, c'est pas un verbe,
ne jouons pas sur ça, on a
compris. On a compris sa philosophie. On est très clair. Cette dame a déjà appelé, donc elle ne dit pas d'où elle l'appelle. Elle a parlé sur Rennes, donc je pense qu'elle est du 92.
Paris.
Non, elle n'est pas de Paris, elle est sur
Rennes. Paris, c'est une vraie.
Dans tous les cas, bon, quoi qu'il en soit.
Et puis on n'est pas là pour commenter.
Non, ce qui est important, c'est de savoir que quand on a ce genre de posture caricaturale, où on dit qu'il y a des gens qui. Et ça, j'entends ça de l'extrême droite, c'est pour ça que ça m'énerve. Soral disait les éducateurs de gauche nous apprennent à détester la France. Mais est-ce qu'on a besoin d'être comme des animaux éduqués par quelqu'un pour avoir un problème quand on sait à l'exclusion? Alors Paris, effectivement, est une capitale ultra favorisée. On va pas à Henri IV comme on va dans le lycée Jean Jaurès en 93. C'est deux niveaux différents et effectivement, on défavorise la banlieue.
Allez, 19h35, on marque la dernière pause pour se retrouver pour la dernière ligne droite. On va parler, vous savez quoi, de l'infertilité. On va parler des femmes, oui, parce qu'il en a parlé, notamment le chef de l'État. Et les femmes, elles sont pas contentes, elles sont remontées parce que ce n'est pas une affaire d'État. Hein, l'utérus. On en parle. Et puis vous aussi au 0153 48 3000. Et on parlera aussi de la ministre de l'Éducation nationale, qui elle aussi, avec le collège Stanislas.
C'est des privilégiés.
Je sais pas, Farid Aïd, mais on en parle. Oui, vous avez raison. C'est votre avis.
Un petit peu.
A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, 19h40, c'est avec Bruno Pomar, Katia Burrier, Farid Aïd et enfin Gamal Abina. Tiens, je vous donne la parole, Katia Burrier, parce que effectivement,
ça vous concerne.
Les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Non, mais quand on regarde les réseaux sociaux, notamment Twitter, X, pardon, eh bien, ça commente beaucoup. Ça devient une affaire d'État, Katia Burrier, hein, pour le coup.
En tout cas, on s'aperçoit s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un taux de natalité qui est de 1,83 en France, qui est bien en dessous pour le renouvellement de la population. Donc, c'est normal aussi qu'il s'en inquiète, notre président. À côté de ça, quand il parle de réarmement, c'est réarmement démographique.
C'est ça, démographique.
C'est ça.
C'est le terme qui est quand même maladroit.
Oui, le terme est un peu là aussi.
Il y a eu beaucoup peut-être d'erreurs.
Le réarmement démographique a été beaucoup commenté.
Oui, toujours pareil, réarmement. C'est violent. C'est peut-être un peu violent. On est d'accord. Mais toutefois, sur le fond.
En tout cas, c'est pas passé du tout auprès des femmes.
Oui, mais sur le fond. C'était de nous dire quoi ? Nous dire qu'il allait faire un grand plan sur tout ce qui était l'infertilité. On ne peut pas lui reprocher de s'attaquer au problème de l'infertilité, qui est un vrai problème en France. Il y a 3 millions, plus de 3 millions de gens.
Les femmes ne l'entendent pas de cette façon.
Mais
voilà.
Attendez,
on parle de natalité, très bien.
Ne dites pas femmes. Certaines femmes, exactement. Oui. Je ne veux pas me mettre dans ce lot-là parce que des féministes qui vont dans l'extrême.
Vous parlez de Sandrine Rousseau, vous ?
Non, il n'y a pas qu'elle.
C'est elle qui critique le caractère d'affaires d'État.
Au niveau des femmes, je suis désolée. Moi, je trouve qu'elle nous dessert plus qu'elle nous sert. Et
Clochette.
C'est la première.
Et donc, à partir de ce moment-là, oui, s'attaquer à l'infertilité,
alors
c'est important.
Quoi, alors
c'est ce
mais
qu'il
Katia Beurrier, ça veut dire quoi aussi... Ça veut dire que chaque femme, ce que vous êtes en train de me dire, là, moi je veux bien l'entendre, est-ce que ça veut dire que chaque femme est libre de choisir, de faire des enfants ou de
sûr,
pas en faire
pas dit...
Ça veut dire quoi en gros, ouais. C'est ce que vous êtes en train de me faire entendre.
Mais elle a le droit de choisir, on ne va pas me mettre un pistolet sur la tempe pour me dire, va faire un enfant.
C'est dommage.
Mais voilà, donc c'est n'importe Farid quoi. Farid, tiens, Farid. Forcer, l'État va
faisons
pas
un tour de temps.
Nous violer pour qu'on fasse des enfants.
Non,
on a l'impression de ça qu'on entend.
Et de l'autre côté, vous savez quoi ? Ils disent non, attendez, on va pas recevoir les immigrés pour justement faire monter.
Oui, c'est n'importe quoi.
Ouais. Bon, enfin,
Farid. Non, mais c'est vrai, moi je pense que parfois. Apparemment, il est brillant. Il est brillant, ce président Macron. Mais parfois, on a l'impression que il va vers des endroits qu'il n'a pas réfléchi avant. Il veut s'occuper de tout. Il a quand même des ministres. Il a quand même des ministres. Il a quand même des gens autour de lui pour le conseiller. On sait très bien qu'il y a un problème de natalité en France aujourd'hui.
Oui,
mais le problème de natalité en France.
Il est spectaculaire.
Il faut savoir les conséquences. Pourquoi les conséquences ? C'est parce qu'aujourd'hui, moi en tout cas pour ma part, je pense que les Françaises et les Français sont anxieux.
Là on y arrive. Moi j'aime bien ça.
Les Français sont.
Ça joue. Bah si, l'inflation plus l'anxiété plus.
Exactement.
L'inflation,
je pense qu'il y a des familles. Il y a des familles qui nous disent que. Ils réfléchissent à deux fois.
Oui, parce que malheureux.
Ils veulent que leurs enfants réussissent.
Ouais. Moi, j'ai des amis qui me disent, c'est vrai. J'ai des amis femmes qui disent, pas question de faire des femmes, parce que quelle société on va leur laisser.
Exactement. Et Adil, au-delà de ça, il y a des parents qui sont attachés à faire en sorte que leurs enfants réussissent. Et c'est normal. Tout le monde. Et ils se disent. Si tu as peur de l'avenir...
Il est connecté, localement.
Si tu te dis à un moment donné, comment je vais faire, et tout, etc., ça pose question. Mais voilà. Là, c'est une question. Mais comment on y répond ? C'est ça, Adil, qui est important. Oui. C'est comment on répond à cette anxiété,
t'as raison.
Difficulté. Alors, que les femmes ont aujourd'hui, qui ne veulent plus, ou ils veulent de moins en moins...
Bruno Poma.
Faire d'enfants. Non, mais encore une fois, le corps des femmes leur appartient, comme on dit. Donc, c'est pas à nous qui plus est, les hommes, à dire ce que les femmes doivent faire ou pas. Ça, c'est un élément essentiel. Que les jeunes générations aient peur de faire des enfants, on peut l'entendre. Parce que c'est vrai qu'on est une société depuis quelques années qui est hyper instable, non seulement française, mais au niveau mondial. On sent que, on est un peu désaxé des
astrologistes. Vous allez peut-être être d'accord avec eux. Hein.
Ouais, pour une fois.
Peut-être pour une fois. Pas de crèche. Pas d'argent, pas de logement, pas de confiance.
Il y a ça aussi.
Donc forcément, ils n'ont pas confiance en l'avenir. Donc pas d'enfants.
Oui, mais je pense que c'est un véritable sujet.
Déclaration de la chef des écologistes, Tondelier, Marine, que vous connaissez.
C'est pas Sandrine Rousseau. Elle est quand même.
Elle est mesurée.
Moi, je pense qu'il faut, rassurer. Il faut que le nouveau gouvernement arrive à rassurer la population en prenant des mesures tout un tas de sujets qui peut-être déclencheront des envies d'eux. C'est peut-être basique ce que je dis, mais c'est peut-être la vérité aussi.
Kamal Abina.
Gamal
Abina, pardonnez-moi.
Ouais. Et ça fait 40 ans qu'on est en crise, donc c'est pas la crise qui est.
Non, je suis pas d'accord avec vous.
Je finis, c'est important.
Ah, bon, d'accord, je vous laisse finir. Autant pour moi.
La crise peut être un élément qui peut dissuader, mais je pense que la transition démographique s'est faite il y a très longtemps, comme dans tous les pays occidentaux. Je prends un exemple, à l'opposé de cela, l'Algérie, qui a eu une transition démographique aujourd'hui.
La France, c'est chaud, hein.
Non, mais tous les pays occidentaux, pas la France. La Maine, c'est pire. La Russie, c'est encore pire. La Russie, ils sont en train de recruter. Ils ont perdu 50 millions d'euros en 50 ans. Ce qui se passe, c'est que.
On parle de 700 000.
Oui, mais c'est logique.
700 000 naissances.
C'est un phénomène classique qui est conduit par quoi ? Qui est induit par plusieurs choses. D'abord, les femmes travaillent. elles sont éduquées, elles vont à l'école longtemps, elles sont à la fac, donc elles retardent la possibilité à leurs enfants le plus longtemps possible. Ensuite, parce que effectivement aujourd'hui c'est un couple, un enfant, on n'a pas besoin de les forcer comme ça a été fait en Chine ou en Inde. C'était une politique qui s'est faite naturellement. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on va, alors moi j'aime pas le fait de donner des leçons aux femmes, c'est ridicule, parce que elles ont suffisamment mangé pour pas avoir supporté ça. Avant c'est 10-12 enfants par femme, on connaît la musique. Ce que je veux dire simplement, ça, c'est que à la limite, une transition démographique, ça fera du bien à la planète. C'est la vérité.
Là, c'est la vérité. Oui. Là,
ça fera du bien à la
planète. Pardon de rigoler, mais
il faut pas qu'il y ait la population augmente de plus en plus. À la limite, c'est bien, ça régule un peu. Et parallèlement à ça, j'ai envie de dire que quand on dit, et c'est ça que j'aime pas, dans les accroches comme ça, elles sont vulgaires. Pourquoi ils parlent d'infertilité quand on parle de volonté? L'infertilité, on la subit. Et très souvent, on cherche à trouver une solution annexe en passant par la GPA ou je ne sais. Alors que la volonté d'avoir des enfants a baissé, voire elle s'est annulée. Mmh. Aujourd'hui, on a un recul. C'était à 86. Allez, on était à 2 il y a encore, je crois, 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a un recul, donc un recul du désir des enfants qui peut être cumulé par les problèmes économiques, mais qui est surtout une volonté intrinsèque des femmes de dire je veux être émancipée, libérée, et les enfants, c'est dur. Et tout le monde le sait que c'est dur. Donc c'est vrai que de réduire ça à un problème de maladie, en l'occurrence, de dysfonctionnement, alors que c'est un phénomène général dans la société, n'explique pas la baisse de natalité.
Je veux qu'on avance sur
sur un terme très important. Les politiques natalistes encouragées par les États, c'est soit on donne de l'argent pour que les femmes travaillent à domicile avec leurs enfants, ou soit simplement on fait les discours d'extrême droite, ce qui est quand même dangereux.
Farid, tiens, je vous donne la parole en premier parce que je sais que vous souhaitiez en parler. L'affaire Oudéa Castéra, vous savez, la mairie de Paris suspend son financement à l'école Stanislas. Parlons-en justement, parce que il y a aussi la comparaison. Beaucoup hier, par exemple, je sais qu'il y a une débattrice de LFI qui m'a fait la comparaison avec Averroes.
Tout à fait, exactement, tout à fait.
Hier, la cogne est dure.
Non, la question, c'est quoi? C'est que Macron, il a commencé à faire un remaniement. Il s'est dit, tous les ministres au travail, et c'est les mêmes ministres qui sont pas au travail et qui sont là pour polémiquer. Ils sont pas là au service des Françaises et des Français, ils sont là pour polémiquer.
Oudéa aussi, madame
Amélie. Bah oui,
c'est elle qui a lancé l'élu de Renaissance.
Oui, elle a le droit de me répondre, mais c'est elle qui a lancé la discussion.
Elle était maladroite.
Elle a été maladroite, il l'a dit Macron, c'est pas moi qui le dis, c'est votre président qui le dit. Macron. Oui, mais c'est elle qui, et c'est elle qui a été maladroite, et comme elle a été maladroite, après c'est au lieu de se taire et se dire bon là on passe à autre chose, elle a commencé à broder et quand on brode et quand on brode, et ben à un moment donné c'est pas possible,
mais c'est nourri par les médias en même temps.
Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi? C'est la question, nous on s'en fout de si elle veut mettre ses enfants ou pas ses enfants à l'école privée. Nous on veut qu'elle se barre. C'est ce que j'ai dit, tu te rappelles, Adil, quand le ministre, l'ancien ministre,
qu'elle se barre.
Non,
qu'elle se batte.
C'est la même question qu'on avait avec Gabriel Attal. Quand il était venu, il était arrivé au ministre de l'Éducation nationale, et le premier geste qu'il a fait, un geste d'autorité, un geste pour dire qu'il existait, il a dit la baïa. Je fais la baïa. Tous les médias ont été sur la baïa, et on n'a pas parlé des vraies questions. Les vraies questions, c'est quoi? C'est, il manque des infirmières dans les établissements scolaires, les moyens, des instances sociales, les profs, etc. C'est ça. Nous, on lui demande à la ministre de travailler sur ces questions-là.
Ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'on se sert encore une fois de l'Éducation nationale, qui n'a pas besoin de polémique, quand on voit dans quel état elle est, entre l'affaire Averroes à Lille et maintenant Stanislas, le public, le privé, on est toujours dans ces trucs-là. Et je trouve que c'est pathétique, encore une fois, pour l'Éducation nationale de façon générale, c'est tout.
Bruno Pomard, Katia Burier, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette affaire Stanislas, le collège Stanislas?
Juste pour la subvention qu'elle a retirée, cette subvention a été donnée depuis des années, elle connaissait très bien Stanislas, donc je trouve ça un petit peu. C'est encore de la politique politicienne. Et aujourd'hui, qu'on attende l'enquête, qu'on attende vraiment de voir s'il y a des choses à reprocher à Stanislas avant d'enlever sa subvention. Je trouve que c'est encore de la politique politicienne.
Gamal, très court, s'il vous plaît.
Oui,
Gamal,
avant de retrouver l'attention, c'est logique, elle est de gauche. Elle est de gauche en général. Depuis Savary, ils n'aiment pas le privé. Oui. Mais ce qui est certain, la question qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est pourquoi dans ce pays, c'est une question fondamentale, on cherche à faire des polémiques sur les bouts de ficelle bidon, alors qu'il y a des problèmes très très durs à gérer.
C'est ça la vraie question.
Franchement, l'extérieur voit la France comme un pays de polémiques. Les gens ne sont jamais contents.
Mais parce qu'on ne veut pas traiter les vrais dossiers, en fin de compte. On ne veut pas s'occuper de la France et des Français. On s'occupe des petites questions et il faut répondre aux ces petites questions, à ces petites polémiques, etc. Et on en a marre de ça.
On lui demande de démissionner, on ne lui laisse pas le temps encore.
Oui,
on va pas
vite.
C'est parti, le quoi de neuf.
Les informés. Les informés. Le quoi de neuf.
Ah oui, effectivement, le débat toujours. Comme chaque jeudi soir, vous savez, c'est avec la signature de Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Merci d'être avec nous, quel plaisir de vous retrouver. Pascal Boniface, géopolitologue, le patron fondateur, le directeur fondateur pardon, de l'Institut Léris. Ce soir, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur concernant le conflit israélo-palestinien, mais plus particulièrement le regard tourné vers l'Afrique du Sud. Pour quelle raison?
Alors, parce que l'Afrique du Sud a déposé plainte devant la Cour internationale de justice en accusant Israël de commettre ou d'aller commettre un génocide à Gaza. La Cour internationale de justice, la plus haute autorité judiciaire, elle dépend de l'ONU, et bien sûr, elle n'a pas vraiment de pouvoir, elle ne peut pas imposer ses décisions. Mais il y a eu une très longue plaidoirie du représentant sud-africain, dont les médias français ont d'ailleurs très peu parlé, et puis le lendemain, une plaidoirie de l'avocat israélien, là, dont les médias français ont plus rendu compte. Bien sûr, la Cour va mettre quelque temps à rendre son arrêt, et l'Afrique du Sud demandait une mesure conservatoire pour empêcher le génocide d'être commis, et donc un cessez-le-feu. La Cour va en parler d'ici quelques semaines, et son arrêt définitif sera connu peut-être dans quelques années. Et d'ailleurs, même s'il était positif pour l'Afrique du Sud, les États-Unis, devant le Conseil de sécurité, mettraient leur veto. Donc, juridiquement, il n'y a pas tellement d'espoir que cela aboutisse. D'ailleurs, il y a maintenant près de 20 ans, la Cour avait déclaré illégal le mur de séparation qu'Israël construit, sans que, évidemment, Israël ne soit obligé de le détruire. Mais ce qui compte, c'est dans le débat médiatique, parce que pour Israël, le fait que ce soit l'Afrique du Sud qui porte plainte est un coup terrible, parce que l'Afrique du Sud, eh bien, c'est un pays qui a un immense prestige dans le monde entier, parce qu'elle a vaincu l'apartheid et qu'elle l'a fait pacifiquement, et même si Nelson Mandela n'est plus de ce monde, son prestige reste énorme, et celui de l'Afrique du Sud aussi. Ce n'est pas comme si la Russie, la Chine ou l'Iran avaient mis en cause Israël. C'est beaucoup plus gênant. Et puis les Sud-Africains se rappellent que du temps de l'apartheid, Israël coopérait avec le régime d'apartheid. C'était les deux régimes un petit peu parias du monde. Ils coopéraient ensemble sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. Et Nelson Mandela avait dit d'ailleurs, nous ne serons pas réellement libres tant que les patients ne le seront pas. Donc il y a une solidarité. Et l'Afrique du Sud, du fait de son prestige accusant Israël, eh bien, c'est très gênant pour Israël. Et puis l'Afrique du Sud, bah, du coup, va augmenter ce propre prestige parce que, puisqu'aucun État occidental ne s'oppose à Israël et que les pays arabes ne font pas grand-chose non plus, eh bien, elle prend un rôle de leader par rapport à ce Sud global dont on parle de plus en plus et qui prend une importance géopolitique de plus en plus grande.
Vos, mon cher c'est Pascal Boniface. C'est clarinette, Bruno. Il n'y a rien à dire. Ouais. Bravo. À jeudi prochain avec autant de plaisir, mon cher Pascal Boniface.
Avec grand plaisir, Adil.
Merci à vous. Bonne soirée. Je le rappelle, géopolitologue, mais également aussi le directeur fondateur. Oui. C'est de belles signatures, hein, Pascal Boniface. Ouais, on le reconnaît. Hein. C'est du lourd. Hein. Ouais. Je dis que c'est du lourd. Ouais. Directeur fondateur de l'Institut Léris. On a une minute juste parce que je vous ai coupé la parole, Bruno Pomard, concernant Stanislas. Vous faisiez la comparaison avec Averroès.
Pour quelle raison?
Ouais.
Tout simplement, c'est une espèce de. Enfin, je ne sais pas, c'est des règlements de compte. Encore une fois, laissons faire la justice, que ce soit pour Averroès d'ailleurs, et pour Stanislas, s'il y a quelque chose qui va aboutir. Mais ce que je disais simplement, c'est qu'on est en train d'opposer tout le monde systématiquement et on se nourrit de ça. C'est un peu comme l'affaire de cette triste affaire israélo-palestinienne qui se passe actuellement. On est tous dans l'excès et c'est terrible.
Allez,
pour les populations.
Merci messieurs, merci à l'ancien membre du RAID, mais également le RAID Aventure, votre fondation est maire aussi. Hein. Voilà. Bruno Pomard, merci à l'élu, bien. Le député suppléant, mais aussi élu.
Merci Adil et bonsoir à tout le monde.
T'es en colère le communiste aujourd'hui.
Oui mais bon, c'est bien d'être en colère Farid Aïd. Gamal Abina, le porte-parole du mouvement MDC.
Élu nulle part.
L'élu de Saint-Maurice, Renaissance ce soir en force. Katia Burier au plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée également. Merci à Solal à la réalisation, comme chaque soir, vous le savez. Bilal Nenman prend le contrôle pour parler de la CAN.
Ah, très important.
Le rendez-vous ne pas manquer. Mais restez, attendez, ne faites pas de bruit. Je range. Je veux juste. Vanessa, je donne juste le programme si vous permettez. Vanessa de 21h à 23h, Kim demain matin, et puis quant à moi, demain soir avec les informés des quartiers. Demain. Ah. Voilà. Ah oui, on reviendra sur l'oisiveté justement.
Never give up.
À demain avec autant de plaisir, mais surtout, qu'est-ce qu'on dit?
Never give up.
On lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.